Alors, je suis très content donc d'accueillir aujourd'hui Alexandre Coutant. Alexandre est parmi nous depuis déjà 6 mois,
6 mois, ouais,
en tant que donc chercheur résident à l'INSIB dans le domaine donc de sa spécialité qui est l'information communication. Alexandre est professeur à l'UQAM donc au Canada. Il est parmi nous pendant un an pour développer ses recherches, notamment avec les équipes de l'ENSIB. Et donc, c'est avec grand plaisir que je t'accueille parmi nous pour ces midis de la recherche. Et on va parler d'un projet qui est en cours et qui n'est pas encore fini, même si tu as déjà pas mal écrit hein, sur ce sujet, qui est donc une réflexion autour donc de Michel de Certeau et de son impact dans son domaine. Mais peut-être avant de commencer là-dessus, on peut commencer par déjà une bonne nouvelle pour les recherches et le lien entre l'ENSIB et l'UQAM, vu que donc on a appris hier qu'on vient de recevoir une subvention pour travailler ensemble donc sur les questions donc de EMI avec également l'EBAD grâce à de l'argent provenant de la francophonie. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ce projet.
Oui, ben c'est ça. Alors en fait, on avait fait une journée d'études en début d'année autour des questions de croyance, hein, parce qu'il est beaucoup question en éducation, médias et l'information, de lutter contre une crédulité supposée des masses qu'il faudrait éduquer, conformer aux institutions, etc. Et puis en fait, on avait un point de vue un peu critique, hein, montrant que peut-être s'il fallait leur faire comprendre qu'ils vivaient dans un monde parfait, peut-être qu'il fallait d'abord s'assurer que le monde était parfait, les institutions tournaient bien, que les productions d'informations étaient fiables, etc. Et donc, moi, ça fait un moment au Québec que je travaillais plutôt sur ça, sur dire que plutôt que traquer le faux, reprocher aux personnes de ne pas être capables de saisir la variété des formes du faux, etc., il fallait peut-être éduquer à repérer le fiable parce que c'était moins fréquent, mais que par contre c'était assez stable en termes de critères pour le repérer. Et donc on a déposé une demande de subvention pour faire une journée d'études autour de ce sujet-là et puis ensuite avoir des fonds sur 4 jours, pour organiser des ateliers de manière à créer des kits qui permettent de pas simplement discuter de ça et de se plaindre que l'éducation aux médias et à l'information ne fait pas comme il faut, mais vraiment de proposer des alternatives et puis des outils qui permettent non plus d'être très centré sur les individus et de déplorer leur incompétence, mais plutôt de les outiller pour juger le fiable, en espérant aussi qu'on pourrait utiliser les professionnels de l'information et de la communication, parce que, encore une fois, peut-être que si les gens n'ont pas trop confiance dans les institutions, c'est parce qu'elles le méritent, et donc on pourrait aussi améliorer ça. Voilà.
Super, c'est des choses à prévoir. Ça aura probablement lieu donc en juillet, c'est ça, de cette année
Voilà, c'est ça, juillet ou à la rentrée prochaine, il faut qu'on voit un petit peu avec les disponibilités, les rythmes de chacune des universités.
Alors, le lien avec du coup Michel de Certeau, il y en a un. Michel Certeau est un personnage complexe, un écrivain presque boulimique. Quelqu'un qui a bien sûr ses liens à Lyon, vu qu'il a été donc prêtre jésuite ordonné à Lyon avant une grande partie donc, de sa carrière plutôt universitaire et d'écriture. Quel lien entre les écrits de quelqu'un qui a quand même beaucoup travaillé plutôt dans le domaine historique, notamment sa thèse sur le 16e, puis après beaucoup d'écrits sur le 17e, du coup ces intérêts que tu as déjà démontrés dans le cadre de cette subvention
Ouais, alors Michel de Certeau, déjà, donc il y a un lien, dès que je suis impliqué, il y a un lien parce que j'arrive pas à penser autrement qu'avec Michel de Certeau, là, vous verrez, hein, j'ai pas beaucoup de recul sur son apport, mais en fait, il a effectivement effectué ses premiers travaux en théologie, en histoire, mais il s'est beaucoup intéressé à l'ordinaire et à aux évolutions de la modernité. Ces travaux-là ont beaucoup marqué, donc on lui a demandé de faire beaucoup d'enquêtes sur la France et les évolutions de la France à partir de la fin des années 60. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est intéressé au fonctionnement des démocraties libérales actuelles. Et donc il y a beaucoup de choses à dire avec son cap théorique, notamment ce qu'il a beaucoup mis en avant, c'est de montrer que on a une tendance à regarder les cadres formels de fonctionnement des sociétés et qu'on perd de vue ce que c'est que le vécu ordinaire des personnes qui vivent dans ces sociétés, alors qu'en fait, toutes les pratiques qu'on a du quotidien. C'est ça qui finalement fait la matière d'une société qui se tient. Il a une méthode où il propose de redonner de la visibilité à ça, à la fois pour mieux comprendre pourquoi ça fonctionne, parce que c'est peut-être pas juste, parce qu'il y a des lois, des cadres juridiques, des cadres institutionnels qui ont été proposés, mais parce que les gens les performent d'une certaine manière. Puis en même temps, de faire ça, ça permet aussi d'avoir un point de vue critique, parce qu'il montre à quel point finalement les institutions ne sont pas complètement adaptées au vécu des personnes, et que ces personnes-là, ben, pour arriver à malgré tout vivre au quotidien, elles font preuve de pas mal de créativité, et que toute cette créativité-là, elle pourrait être le ferment quelque part de changements sociaux, d'adaptation pour faire des sociétés demain qui seront plus inclusives, plus épanouissantes que les sociétés d'hier. Et donc, dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, comment j'en suis arrivé là, c'est j'étais vraiment frappé depuis le milieu des années. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de confiance. Michel de Certeau a beaucoup travaillé les questions de confiance. Depuis le milieu des années 2010, hein, on parle beaucoup de fake news, de crédulité, de complotisme, de personnes qui seraient complètement folles, en fait, en gros. Et en fait, ça va beaucoup avec une crainte, parce que ces personnes-là peuvent s'exprimer en ligne. Alors, les réseaux sociaux feraient que tout le monde peut y aller de ses opinions, gouvernées par les émotions, etc. Et en fait, quand on fait justement des enquêtes de terrain, c'est pas du tout ce qu'on voit. C'est que ça, c'est effectivement, quand on va sur un petit subreddit complotiste, on voit des complotistes. Mais bon, je dis souvent, hein, quand on vit dans un poulailler, le monde ressemble à une poule, mais c'est juste un problème de biais de nos recherches. Le travail de Certeau, il permet bien de comprendre la tension entre les institutions, la manière dont on essaye de donner une vision de comment les choses sont censées fonctionner, et puis la manière dont les gens vivent dans ces sociétés. Donc je m'en sers beaucoup pour essayer de comprendre ces phénomènes-là.
Et donc, en fait, de Certeau est un personnage complexe, hein. C'est quelqu'un qui est lui-même rattaché à des institutions, hein, on l'a dit, mais également quelqu'un qui est à 68 ans, pour faire vite, quelqu'un qui va influencer beaucoup de l'écriture, notamment dans le domaine de l'histoire culturelle et dans la culture, et donc qui est lui aussi intégré au domaine universitaire, etc. Et pourtant, il semble très critique de ces institutions et des normes qu'elles fabriquent. Et comment est-ce que tu comprends cette critique des institutions qu'il fait? Et quelle est la validité, en fin de compte, pour tes recherches, c'est-à-dire dans le domaine de l'aujourd'hui, des institutions qui peuvent nous accompagner, nous entourer, nous dire ce qui est vrai ou pas vrai, etc.
Oui, ben sa richesse, à mon sens, hein, c'est qu'il vraiment, il pense, il a pas une approche qui serait très atomiste des individus, ou au contraire très structuraliste des cadres sociaux qui nous encadrent, mais il essaye de comprendre comment il y a des mécanismes d'institutionnalisation qui permettent de stabiliser une société, de mettre en place des normes, d'arriver à vivre ensemble, et puis il reconnaît que c'est nécessaire, on réinvente pas le monde à chaque pas qu'on fait, etc. Mais en même temps, comment ce processus-là, il ne peut fonctionner que par simplification et donc exclusion de tout un tas d'éléments minoritaires qui se retrouvent du coup minorisés après et invisibilisés, voire disqualifiés dans les cadres où il y a des tensions, des conflits sociaux plus forts. Et c'est très intéressant pour plus avoir une vision statique des sociétés, mais de voir comment il y a des rapports de force permanents qui sont en renégociation. Il me semble que ça parle beaucoup justement des sociétés actuelles qui sont très... Il y a une place énorme de micro-pouvoirs, de micro-normes dans tous les sens, partout, qui cadrent énormément nos fonctionnements. Et où en même temps, ces éléments-là, ils n'arrivent pas malgré tout à venir complètement, coloniser nos représentations du monde et tout. Il reste nos envies de vivre d'une certaine manière, nos goûts, nos relations sociales ordinaires, etc. Et donc, son travail consiste à montrer comment les institutions finissent par invisibiliser, et puis la portée politique qu'il y a tout ça, parce qu'en sciences de l'information et de la communication, on se revendique quand même pas mal comme des sciences assez critiques, hein, si on essaye de comprendre les choses, c'est pour pouvoir intervenir dessus après. C'est que ça redonne de la visibilité à ce qui a été exclu. Et donc typiquement, hein, quand je vous disais tout à l'heure, ben, le grand public peut s'exprimer facilement avec le numérique. réaction institutionnelle, les gens sont fous, écoutez-les, regardez, d'ailleurs, ils disent n'importe quoi, etc. Faire des enquêtes, essayant de documenter la proportion des gens qui disent n'importe quoi par rapport à la proportion des gens qui disent des choses sensées, ça permet de rappeler, ben non, en fait, la plupart des choses sont sensées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les commentaires, on empêche d'intervenir, ou on se saisit du fait que, finalement, cette population, elle est pas si incapable d'intervenir, de s'exprimer sur la société, etc. Donc, c'est ça, pour moi, la portée, l'intérêt de Michel de Certeau. Puis, c'est finalement, hein, dans sa carrière, effectivement, tu disais, il était quand même assez loin, il s'intéressait aux mystiques des 16e et 17e siècles. Mais finalement, il y a une vraie continuité parce qu'il essayait de voir comment ces personnes-là, en fait, faisaient face à une crise dans la croyance, en fait, où ils estimaient les institutions religieuses corrompues, mais malgré tout, ils croyaient. Et comment ils arrivaient à vivre en ne croyant plus aux institutions dans lesquelles ils étaient. Donc, ça s'est traduit d'une certaine manière pour la démarche mystique. Mais pour lui, il a appliqué ça, en fait, dans une anthropologie du quotidien pour essayer de comprendre comment on vit dans des sociétés libérales dans lesquelles on ne croit peut-être pas complètement, voire auxquelles on n'adhère pas du tout, etc.
Donc, on a quelqu'un qui a une pensée profonde, on a dit, extrêmement, je dirais, influente, hein, notamment donc, dans le domaine français, mais aussi énormément lu à travers ses travaux de micro-histoire et de pensée dans le domaine américain également. Comment as-tu pu choisir dans la masse de son écriture ce qui, en fin de compte, parlait à ton sujet? Parce que, pour le dire vite, Michel de Certeau a écrit des dizaines de livres, des centaines d'articles. C'est une pensée foisonnante aussi.
Ouais, c'est vraiment compliqué. Ben, on a déjà abordé 3-4 thèmes et puis on est à peine à 10% de tout ce qu'il a pu aborder comme sujet. C'est incroyable. Là, il y a une recension récente qui a été faite de ses travaux ou des travaux qu'on portait sur lui. Ça fait 125 pages. Et là-dessus, il y a 67 pages juste de référence de ses écrits. Donc, autant vous dire qu'en plus, moi, je suis en sciences de l'information et de la communication. Je suis un chercheur, plutôt. Je fais des enquêtes de terrain. Je ne suis pas un exégète d'auteur, là. Donc, autant vous dire que c'est impossible de faire le tour. En infocom, en fait, moi, c'est ce qui a motivé de d'écrire sur lui. En infocom, il a été connu essentiellement pour ses travaux justement d'anthropologie du quotidien et il a été finalement lu assez rapidement, surtout à une période où infocom, c'est né en fait de beaucoup de chercheurs en histoire, en lettres, en sciences du langage qui s'intéressaient à des sujets pas légitimes en fait. Hein. En sociologie de la culture, c'était pas ceux qui s'intéressaient à l'opéra, mais à la télé. En sciences du langage, c'était pas des analyses des structures des langues, mais de la conversation ordinaire ou des choses comme ça. Mais toutes ces personnes-là, elles venaient de, en tout cas en France, on était très marqués par des approches assez structurales. Ce qui fait qu'il a été lu assez rapidement comme l'opposé aux approches structurales et donc un petit peu un espèce de théoricien du libre arbitre, de l'émancipation personnelle, etc. Et en fait, en le lisant, il n'y a pas du tout ça en fait. Hein. C'est pas du tout son modèle. C'est un modèle qui intègre complètement. Je vous parlais des institutions. En fait, hein, il vous dit bien, on vit dans un monde dont on peut pas s'échapper. Il y a des normes qui nous encadrent, donc on peut pas changer, etc. Le tout est de se dire comment on survit là-dedans. Et son apport vraiment intéressant, riche, c'est de dire que la plupart des théories structurales sont convaincantes en termes d'organisation macro-sociale, mais qu'elles ne permettent pas de comprendre l'action, parce qu'on ne peut pas faire découler de nos déterminations, elles sont trop variées en fait, on ne peut pas faire découler directement le pourquoi quelqu'un agit de telle manière en contexte. Et donc il rajoute à cette compréhension structurale du monde une théorie de la performance pour comprendre comment on active en situation un certain nombre de déterminismes pour agir, pour se représenter la situation d'une certaine manière, etc. Et donc ça, c'est ce qui m'intéressait, de montrer comment son modèle, il était riche, finalement, qui dépassait beaucoup de choses sur lesquelles on restait ancré en infocom, un petit peu nos tares de jeunesse. C'est une science jeune, hein, les sciences de l'information et de la communication, c'est né dans les années 70 institutionnellement. On est beaucoup entre liberté ou déterminisme, le techno-déterminisme ou socio-déterminisme, etc. C'est que des espèces de dichotomie qui permet vraiment de dépasser en montrant, bah, lui, le concept central qu'il utilise, hein, c'est faire avec. Donc c'est toujours la relation entre les deux, et puis ça convient bien à ce qu'on essaye de petit à petit mettre à jour comme spécificité de l'approche des sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire penser les médiations et du coup de dépasser un petit peu cette idée, est-ce qu'il y a du déterminisme ou est-ce qu'il y a la capacité à agir en contexte de manière diversifiée. Ce n'est pas vraiment ça les questions, mais c'est plutôt comment on fait en contexte. Et donc ça m'a amené à lire énormément ces travaux plutôt d'études culturelles, ces travaux sur la modernité. Je vous disais, il a beaucoup écrit, donc ce serait génial de pouvoir tout lire, mais ça me dépasse en termes de temps que je peux y consacrer. En revanche, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes avec lui. C'est que, un, il a beaucoup travaillé avec Luce Giard, qui est son exécutrice testamentaire maintenant, et qui n'a pas cessé, depuis sa mort, de produire des ouvrages collectifs, republier des recueils d'articles, et systématiquement, elle fait des très très longues préfaces qui peuvent aller jusqu'à 50, 100 pages, recontextualisant son travail. Elle a collaboré avec lui depuis le début des années 70, donc elle a vraiment suivi une grande partie de son travail, donc elle est très aidante en fait, hein, et puis ça permet justement, souvent elle va refaire le lien entre ses travaux plus sur les situations contemporaines et puis la démarche épistémologique qu'il avait par exemple dans sa conception des sciences, notamment de l'histoire, son intérêt pour les mystiques, etc. Et autre chose, hein, il y a eu François Dos qui a fait son habilitation à diriger des recherches sur Michel de Certeau, et donc là c'est pareil, on dit, comme vous voyez, c'est un gros ouvrage, c'est tout petit, hein, donc c'est une grosse somme, mais au moins une fois que vous avez fini ça, en fait vous passez à travers l'intégralité des sujets et des manières de les aborder qu'il a eu, et puis l'intérêt de son ouvrage est de montrer comment il y a vraiment une cohérence et le même modèle analytique derrière tout ce travail-là.
Alors tu parles de médiation, d'institution, de libre choix, et également l'impact donc dans le domaine culturel, hein, des gens comme Roger Chartier, Daniel Roche qui vient juste de mourir, etc., ont été énormément influencés par Michel de Certeau, et la question de la lecture, hein, est une question auquel il s'est également intéressé. Alors on est dans une bibliothèque, dans une école qui s'occupe également de ce domaine. Est-ce que tu crois que, justement, sur l'angle que tu prends, toi, dans lequel, une question sur laquelle, évidemment, les bibliothèques se portent énormément, hein, la question de l'autorité, de l'information et de je dirais, de ce qu'on pourrait dire, un biais institutionnel de validation, est-ce que tu crois qu'il y a aussi un apport, et est-ce que c'est quelque chose auquel tu toucheras ou pas, ou...
C'est-à-dire que les bibliothèques, ça représenterait vraiment exactement ce qu'ils qualifient comme une institution. C'est-à-dire que ça a l'avantage de structurer et de pérenniser, mais en faisant ça, nécessairement, ça fait des choix, donc ça va invisibiliser ce que ça n'a pas choisi. Et c'est le but de son travail en histoire comme vis-à-vis des situations contemporaines, de remontrer toute la variété qu'il y a derrière ces choix-là. Et donc, avoir conscience de ça et lire des travaux de Certeau, ça ne va pas nécessairement amener à remettre en cause ce fonctionnement institutionnel, parce que malgré tout, il est nécessaire. Et puis, c'est ça qui est intéressant dans sa démarche aussi, c'est que ce ne sont pas des démarches qui sont binaires entre est-ce que c'est bien ou mal les institutions, mais c'est bien de montrer que de toute façon, c'est un mécanisme anthropologique qu'on ne dépassera pas d'institutionnaliser. On ne peut pas fonctionner autrement que comme ça. Mais la conscience d'à quel point ça invisibilise permet de toujours être attentive à ces marques de reste qui en général sont pas, on parle souvent de la majorité silencieuse, mais en fait lui son intérêt c'est de dire elle est pas silencieuse, c'est juste qu'on l'écoute pas. En fait cette majorité elle continue de parler mais elle est invisibilisée. Et donc on peut mettre en place des mécanismes qui permettent d'essayer de rendre visible toutes ces altérités qui se retrouvent exclues par le processus d'institutionnalisation. Alors, il l'a fait notamment en communication. Il y a un texte qui est assez drôle parce que, comme il a, en fait, quand il a, donc il était plutôt sur ses travaux en histoire et en sciences religieuses, hein. Et puis, au moment de mai 68, il a écrit à chaud plusieurs articles décrivant mai 68 qui ont vraiment fait date parce que personne comprenait rien. Et puis, d'un seul coup, là, il y avait une clairvoyance sur ce qui était en train de se passer qui a marqué je pense, tout paysage intellectuel français à l'époque, hein, qui se dit, ah, tiens, il y a visiblement quelqu'un qui a une approche un petit peu plus efficace pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Et puis, ça a aussi beaucoup marqué les ministères, et notamment le ministère de la Culture, qui ensuite lui ont donné beaucoup de... C'était une période bénie, où il ne fallait pas faire des tonnes et des tonnes de demandes de 600 pages pour obtenir 300 euros. Et lui, à la place, on a carrément donné des sous en disant, ben, essayez de comprendre c'est quoi les changements dans la France actuelle. Puis vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais quand même de temps en temps on lui demandait de produire un peu des textes de prospective, ce sur quoi il est absolument nul, parce que c'est plutôt un historien, normalement on regarde dans l'autre sens, hein. Et puis en plus il était plutôt très, là pour le coup, en dehors du fait que son écriture est très riche, c'est un grand érudit, etc., c'était quand même quelqu'un qui avait une méthode issue de l'anthropologie qui était très 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 minutieuse et rigoureuse, et donc parler de ce qui pourrait arriver dans 10 ans, pour lui c'était un non-sens, hein. C'est-à-dire qu'il regardait ce qui se passait là. Et il le documentait de manière très précise, mais il a produit quand même quelque chose pour le ministère de la Culture qui s'appelait l'Ordinaire de la Communication, où il essayait d'imaginer ça allait être quoi tous les dispositifs dans les années 80 qui allaient se développer notamment autour des radios ou des télés communautaires. Et en fait, on voit bien que ce qu'il montre, c'est comment tout ça pourrait être des espèces d'outils pour re-rendre visibles les choses qui n'ont pas été sélectionnées dans les institutions plus officielles, de manière à tout le temps les obliger à se remettre en cause et puis à intégrer ces altérités qu'elles ne voient pas. Et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les études, l'éducation aux médias et à l'information critique, hein. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, vous voyez le petit bouquin qui a été publié par La Friche, et puis c'est exactement ça qui est mis en avant, en disant il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas... Tous ces outils-là, en fait, permettent simplement, c'est des radios de quartier, des magazines de quartier, des télés de quartier, qui redonne de la visibilité au vécu, et puis à partir de ce moment-là, c'est une base sur laquelle réfléchir à comment on s'organise collectivement en ayant conscience de qui sont les personnes qu'on essaye d'organiser.
Alors je vais finir avec une question plus personnelle et plus appliquée au livre que tu es en train d'écrire. C'est un livre un peu différent de ce que tu as pu faire auparavant, dans le sens où tu as fait beaucoup d'enquêtes de terrain, très pratique dans le monde contemporain. Là, c'est quelque chose qui est porté aussi sur une réflexion plus large, lourde, si on veut. C'est comment de changer de type d'écriture pour toi? Est-ce que tu sens qu'il y a des dangers, des difficultés, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est quelque chose que tu trouves est relativement facile une fois en regardant déjà ce que tu as fait derrière toi?
Non, c'est infernal. Peut-être en s'intéressant à quelqu'un qui a sorti 2 livres dans sa vie, ça aurait été plus simple. Mais là, comme je vous disais, le volume de la personne à qui je m'intéresse, c'est compliqué. Et puis en plus, le fait d'écrire quelque chose avec juste un nom, etc., je suis habitué à faire de la recherche. Pour moi, c'est collectif, c'est basé sur des enquêtes qui pourraient être un peu sérieuses et abouties. Ça veut dire que ça implique plein de monde. En admettant que ce ne soit pas des gens qui ont mis la main à la pâte directement, c'est aussi plein de lectures, etc. La vision collective de l'avancée de la connaissance me semble vraiment hyper importante. Donc à un moment... revendiquer l'attention pour 150 pages juste autour de notre nom, etc., ça m'est toujours paru étonnant. Et en fait, donc il y avait déjà cette difficulté-là. Puis en plus, il y a la difficulté de... Quand on lit, moi, j'ai fait de la recherche parce que je l'ai lu, hein, vraiment, il m'a transcendé. C'est marrant parce qu'il parle d'un des compagnons d'Ignace de Loyola sur lequel il a travaillé, Joseph Surin, et puis il disait, c'est comme mon espèce de fantôme, il est toujours derrière moi, je ne peux plus voir le monde autrement qu'avec sa manière de penser, etc. Et puis moi, c'est ça avec Certeau, je ne peux même pas penser mon quotidien sans utiliser ces grilles de lecture. Mais du coup, ça veut dire que c'est très pertinent en soi, donc pourquoi pas juste encourager à aller le lire, et puis voilà, surtout qu'il écrit très bien. Et le choix, ça a été, un, de voir qu'en infocom, il est pas connu de la même manière que dans d'autres disciplines. C'est-à-dire qu'il a été lu assez rapidement, en général, on le voit, il est partout, hein. Il a eu vraiment une notoriété ambivalente, parce que il est dans tous les manuels, il est dans énormément d'articles, mais en général, c'est Certeau, entre parenthèses, 1990, c'est tout point. Et puis, il n'y a aucun de ses concepts, il n'y a pas la méthode qu'il utilisait, etc. Et en général, on dit après, ben, quand on est trop déprimé de lire Bourdieu et Foucault, il reste Certeau comme gars sympa, parce qu'il est un peu optimiste, il aime bien les gens, etc. Mais c'est très caricatural, ça réduit énormément son approche, qui en fait était plutôt une approche complémentaire à beaucoup de Foucault, puisque Bourdieu, il était moins convaincu par Bourdieu, mais il a énormément discuté les travaux de Foucault, il les a énormément intégrés, et puis il les a, pour toute une dimension, en tout cas il s'est intéressé à d'autres choses que Foucault, et notamment comment les gens vivaient une fois qu'ils étaient pris dans toutes ces micro-procédures, etc., ce qu'a pas fait Foucault. Donc c'est plutôt très complémentaire, ça amène du coup à nuancer pas mal de thèses de Foucault, mais c'est pris comme un complément. Et donc je voulais... invité à plus le lire et à plus utiliser son vrai modèle complet plutôt que de s'en servir comme argument de paille pour bien expliquer que malgré tout il y a des déterministes partout. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un, je vous ai déjà dit, j'ai soulevé plusieurs fois que c'était quelqu'un qui écrivait très bien, mais c'est une écriture qui est perturbante pour un chercheur moderne qui est habitué à quelque chose de très structuré et puis très descriptif, mais où on va pas y aller de la métaphore. Une métaphore, là, quand on essaye d'être rigoureux et précis, c'est pas le mieux quand même. Et en fait, son écriture est très riche. Ça peut amener à ce qu'on saisisse pas à quel point derrière il y a un modèle théorique et même méthodologique extrêmement précis qui peut être mobilisé aujourd'hui et qu'on gagnerait vraiment à mobiliser. Et donc c'est l'autre dimension du bouquin, et c'est de dire, ben, tenez, pour des chercheurs qui sont plus habitués à une lecture moderne des sciences, ça vaut quand même le coup. Je vais essayer de le traduire, moi qui suis plutôt issu de cette formation-là, je vais essayer de le traduire pour qu'on puisse se l'approprier et aussi comprendre pourquoi ça peut être utile d'avoir une écriture riche, hein, parce que lui c'était très inspiré, ben, des anthropologues, hein, notamment, et en disant, de toute façon, il y a la partie très rigoureuse où on essaye de comprendre ce qu'on arrive à cadrer au sein de modèles théoriques, mais le réel auquel on est confronté, il va toujours dépasser ça. Et donc, à un moment, l'allusion, l'analogie, ça a aussi une puissance heuristique pour des personnes qui n'étaient pas sur le terrain. Et en fait, il l'a très bien, il a même écrit sur ça pour expliquer comment il a lié ces deux dimensions de l'écriture pour à la fois... être rigoureux, strict, organisé, faire des petits tableaux, etc., quand il pouvait le faire, mais aussi être plus allusif quand on ne pouvait pas faire plus que de l'allusion. Et c'est souvent ça, hein, dans ces textes. Il y a des moments très théoriques, très précis, et puis il vous finit avec une belle phrase. Je disais tout à l'heure à Malcolm, moi j'ai fait ma thèse en lisant la première fois, et il décrit un petit peu les mécanismes par lesquels on invisibilise les activités ordinaires, et puis il finit avec les pratiques de la consommation sont les fantômes de la société qui portent leur nom. C'est bon, ben voilà, j'ai trouvé mon sujet de thèse et je ne l'ai pas quitté depuis. Et donc en fait, l'idée était de montrer comment ce n'était pas une perte de rigueur, mais c'était au contraire un enrichissement du savoir positif par toute une dimension moins contrôlable, mais qui reste malgré tout intéressante à intégrer du moment qu'on n'abandonne pas la rigueur là où c'est possible. Et c'est pour des sciences de la complexité, des sciences qui prennent acte de l'incertitude fondamentale dans laquelle on se trouve, même quand on fait preuve de rigueur pour essayer de construire de la connaissance, il y a vraiment un modèle plutôt d'avenir. François Doss, il disait ça, de Certeau comme de Ricoeur, il disait c'est plutôt des gens pour demain que pour hier, dont on n'a pas encore saisi toute la portée, à mon avis.